Donc, merci Jean-Charles donc, de faire cette présentation. Tu appartiens au club de Saint-Benoît.
Voilà, comme c'est marqué. Donc, bonsoir à tous. Donc, Jean-Charles Tarnec. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu de radioastronomie, alors sur le soleil et puis sur autre chose aussi. Je vais faire très court parce qu'on m'a demandé de faire très court et qu'on est déjà bien en retard. Donc, si certains sont intéressés, n'hésitez pas à venir m'en parler après parce que là, je vais faire que survoler le phénomène. Et quand je dis radioastronomie, je parle bien sûr de la radioastronomie amateur que vous pouvez tous faire, ou presque. Donc l'observation du soleil visuel et radio, donc visuel, ben, vous avez vu qu'aujourd'hui, pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup de chance. Sinon, je pense que vous l'avez tous déjà vu. Donc au niveau visuel, vous connaissez les choses habituelles, que ce soit au télescope avec filtre, à la lunette Coronado ou avec d'autres instruments. Donc là, je passe rapidement, je vous parle surtout de la partie radio. Alors la partie radio, elle pose toujours problème, puisqu'au niveau de l'amateur, quand on parle radioastronomie, on imagine ça et on se dit « j'ai pas grand-chose à faire là-dedans, je vais retourner à mes images ». Donc quelle place pour l'amateur, c'est la question. Alors nous sommes tous ici astronomes amateurs, je pense, donc si on reprend vraiment l'étymologie, ça veut dire amateur, on aime l'astronomie, ça ne prédispose pas de notre niveau, ça veut juste dire qu'on aime l'astronomie, quel que soit notre niveau. Pourquoi venir à la radio ? Pour plusieurs raisons possibles. On est amateur, donc en général, on a vu des belles images, c'est joli, c'est très joli, j'adore ça. Et puis, il y a des fois où on n'a pas d'image et où on a quand même envie de comprendre. Donc, en radioastronomie, on ne va pas forcément faire d'image. C'est possible, mais ça donne des images de pas très bonne qualité, c'est pas très agréable. Mais on va récupérer de l'information qui va nous permettre de comprendre ce qui se passe derrière. Et ça, c'est aussi intéressant, même si on ne fait pas d'image. Et pourquoi faire de la radioastronomie ? Eh bien, parce que si vous êtes comme moi, que vous en avez très très marre de l'hiver, où vous n'avez pas pu observer depuis à peu près 4 mois, vous vous dites, je peux peut-être faire autre chose en attendant. Moi je suis également radioamateur, donc toujours dans le sens officiel des choses, c'est-à-dire que tout ce qui concerne la radio, ça m'intéresse. Alors, radioamateur, c'est pas si bis, ça n'a rien à voir. En France, les radioamateurs, personne ne sait ce que c'est un peu dommage. Un radioamateur, c'est quelqu'un qui a passé une licence internationale, reconnue de façon internationale, qui tous les ans paye une taxe pour pouvoir utiliser du matériel radio et qui s'intéresse vraiment à tous les phénomènes radio. Et puis c'est aussi une passerelle de se dire j'aime la radio, j'aime l'astronomie, est-ce que je peux pas faire les deux en même temps ? Alors, il y a plein de phénomènes qui se passent au-dessus de nos têtes et je remonte souvent des graphiques de ce type-là parce que très souvent... on a du mal à reclasser un petit peu les choses, ce qui se passe au-dessus de nos têtes, en fonction des altitudes. Et tout ce qui va concerner les ondes radio vont concerner soit des ondes radio que nous, on émet sur Terre et qui vont aller vers l'espace, qui vont parfois rebondir à certaines hauteurs vers la Terre, et aussi les ondes radio qui viennent de l'espace, qui vont traverser l'atmosphère, qui vont interagir avec des tas de choses, et que nous, on va recevoir plus ou moins sur Terre. Donc là, il y a plein de phénomènes très très intéressants qui se passent, que je ne vais pas vous expliquer du tout parce que j'ai absolument pas le temps, mais ils sont très nombreux. Alors au niveau radio, qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon, on peut écouter des tas de choses. Écouter ce qui se passe dans les avions, ça c'est très facile à faire. On peut s'amuser à recevoir les données des ballons-sondes de Météo France. Tous les jours, Météo France envoie des tas de ballons-sondes dans l'atmosphère. Les données, il est très facile de les écouter, de les décoder et de voir ce que les ballons-sondes font. C'est très marrant. On peut écouter certaines conversations à bord de la navette spatiale, plus maintenant, puisqu'il n'y a plus de navette spatiale. Mais il faut quand même savoir une petite chose. Maintenant, ISS, avant Mir, toutes les stations spatiales envoyées dans l'espace ont toutes eu à bord une station radio amateur, avec des fréquences qui sont uniquement réservées aux radios amateurs et faites uniquement pour que les radios amateurs puissent échanger, soit par la voix, soit par d'autres moyens, avec les astronautes, cosmonautes, spationautes, etc. Moi, j'ai réussi à contacter Mir à l'époque avec un petit poste qu'on tient à la main et 5 watts de puissance. J'ai d'autres collègues dans cette salle qui ont fait des contacts avec Mir aussi. C'est très facile à faire. Alors, il n'y en a pas souvent parce qu'ils ont autre chose à faire que de discuter avec nous. Mais quand vous entendez Claudie Aigneré en direct de l'espace et que vous l'entendez, que vous savez que ça passe à 350 km au-dessus de votre tête, c'est toujours marrant. C'est pas encore de la radioastronomie, mais ça vient de l'espace. Ensuite, vous avez tous les phénomènes naturels. Alors tout ce qui est orage, phénomène naturel, provoque des ondes électromagnétiques qu'on peut écouter, qu'on peut étudier. Il y a beaucoup de choses à en tirer, mais je vais passer rapidement dessus. Ensuite, alors je passe rapidement, je vais reprendre les météorites. Donc vous avez vu tout à l'heure, on vous a parlé du réseau Fripon. On vous a dit aussi que le visuel c'était très bien, qu'à certains endroits on mettait des antennes. Vous avez vu l'antenne tout à l'heure, donc c'était une Yagi 5 éléments pour votre information, mais on peut faire avec n'importe quel type d'antenne, même une antenne de récupération, parce que moi je fais en grand public de la détection des météores radio avec une antenne de récupération que je n'ai absolument pas payée. C'est simple à faire, ça fait du bruit parce qu'on rend audibles les météorites, et en plus on peut les voir sur un écran avec des logiciels entièrement gratuits. Ça demande juste un poste récepteur, on peut en trouver à pas cher. Alors le mien, je vous avoue, comme il me sert à beaucoup d'autres choses, il est de très haute qualité et il a un certain prix. Mais avec des postes à moins de 100 euros, vous pouvez faire des choses fabuleuses au niveau de la détection des météorites. Et puis vous avez des tas de choses, il y a des satellites, il y a aussi des satellites qui sont réservés aux radioamateurs, envoyés par des radioamateurs avec lesquels on peut faire des choses. Enfin, l'espace est rempli de signaux radio. Alors, je vous prends quelques exemples. La NASA s'intéresse beaucoup à ces jeunes et prévoit souvent des programmes intéressants. Et il y a un programme qui s'appelle Radio Jove, qui existe depuis un certain nombre d'années, organisé par la NASA au début, dont le but était de faire de la radioastronomie en écoutant Jupiter. Puisque vous avez le couple Jupiter et Io, son plus proche satellite, qui provoque des phénomènes radio à certains moments donnés très précis. Et ces phénomènes radio, on peut les écouter sur Terre. Alors si vous êtes comme moi et que des fois vous vous dites « j'aimerais bien faire, mais je n'ai pas envie d'être tout seul. Après tout, si on était plusieurs, ça serait marrant. » Eh bien, vous pouvez faire ce que j'ai fait il y a quelques années. C'est-à-dire vous contactez un professeur d'une classe de physique que vous ne connaissez pas. Vous lui dites « voilà, j'aimerais bien faire des choses avec vous. Est-ce que vous avez des élèves qui ont envie de faire quelque chose ?» Là, il vous met à disposition 3-4 élèves. Moi, j'en ai eu 4. Deux élèves qui étaient en terminale, un élève en première et un élève en seconde. Et là, vous leur dites, eh bien, écoutez, on va écouter Jupiter. Vous allez monter une antenne, vous allez la créer, et vous allez écouter Jupiter. Alors, il faut les aider un petit peu, parce que ça ne se fait pas comme ça. Il faut faire quelques calculs pour eux. Mais ça donne une belle histoire. Ça donne des documents que vous pourrez récupérer sur Internet, qui est leur rapport de stage. Si vous tapez surfer sur Jupiter, vous allez avoir l'ensemble des choses. Et puis, ce que je n'avais pas mesuré, mais qui est tout à fait intéressant, c'est que ça permet aussi, par exemple, de participer aux Olympiades de physique et d'en sortir avec un premier prix. Et ça permet aussi, parce que tous les ans, l'Académie des sciences en France donne un prix à un groupe de jeunes pour ce qu'ils ont fait dans l'année, ça permet aussi d'avoir un premier prix à l'Académie des sciences et d'être accepté à l'Académie de sciences alors que vous êtes en terminale, première ou seconde, ce qui n'est pas dénué d'intérêt. Ça donne des signaux sonores très sympathiques qui ressemblent à des bruits de vagues. Et ce qui est très intéressant, c'est que, comme je vous le dis, vous pouvez calculer pratiquement à la minute près à quel moment vous allez les entendre et à quel moment ça va se finir. Donc le fonctionnement, très très rapidement, Jupiter et Io, en fait, vous savez, Io est le seul satellite de notre système solaire qui est très très volcanique avec une activité intense parce qu'il est dans le champ magnétique de Jupiter. Et il y a des échanges magnétiques, des échanges de flux importants entre Io et Jupiter. Et ça crée des tas de fréquences qui, quand elles sont dirigées vers la Terre, peuvent être récupérées pour nous au sol. Alors Jupiter n'est pas la seule planète à faire ça. Saturne également produit des ondes sonores qu'on a découvert avec la sonde Cassini il y a quelques années. Malheureusement, les fréquences émises par Saturne ne traversent pas notre couche d'atmosphère, donc on ne peut pas les écouter sur Terre. Donc ça limite un petit peu à ce niveau-là. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Eh bien, on parlait du Soleil, donc on va revenir sur le Soleil. Donc le Soleil émet, comme vous le savez, des tas de choses dans l'espace, des protons, des neutrons, des électrons en direction de la Terre et constitue donc le vent solaire. Et ce vent solaire, grâce au champ magnétique terrestre, évidemment, est dévié, mais produit des effets sur Terre qu'on peut mesurer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en radioastronomie solaire ? Eh bien, on va mesurer des choses, et pour voir si on est correct, on va comparer ça par rapport à des données officielles. Alors les Américains ont en permanence autour de la Terre, enfin surtout au-dessus du territoire américain, deux satellites du système GOES, hein, pour Geostationary Observatory, je ne sais plus pour le E et le S, enfin le S c'est pour satellite. Et le but c'est de mesurer en permanence au-dessus du territoire américain les rayons X, les protons, les électrons, il y a un magnétomètre et en plus ils ont de quoi imager. Pourquoi ? Parce que bah, vous devez le savoir, le Soleil ça nous permet de vivre, c'est très bien. Mais certains éléments qui peuvent arriver sur Terre suite à des éruptions solaires peuvent être dangereuses au niveau des pipelines, au niveau des câbles électriques, etc. Donc il y a un intérêt réel à voir ce que le Soleil fait. Et ben, on va essayer de faire la même chose au niveau amateur. Donc en particulier, on va s'intéresser aux rayons X solaires. Donc le Soleil émet des tas de choses, et il y a une partie des rayons X qui, quand ils atteignent notre ionosphère, vont modifier la composition de notre ionosphère, et ça, on va pouvoir le mettre en évidence. On va utiliser pour ça des émetteurs terrestres, qui en général envoient des émissions vers le ciel, et ces émissions, elles passent sans problème la ionosphère, elles sont entre guillemets perdues dans l'espace. Donc si vous essayez de les écouter sur Terre plus loin, vous ne les entendez pas, parce qu'elles sont envoyées vers le haut. Et quand vous avez des éruptions solaires, quelques jours après, vous avez des rayons X solaires qui arrivent dans la ionosphère, qui vont, comme son nom le dit, ioniser la ionosphère, et la transformer donc en miroir pour certaines ondes et les réfléchir vers la Terre. Et donc quand on reçoit ces ondes, on peut mettre en évidence donc que notre ionosphère a été excitée et elle a été par des rayons X solaires. Alors, heureusement, les Américains, avec leurs satellites, mettent des données à disposition quasiment en temps réel sur Internet. Donc vous pouvez tous, si vous tapez GOES au niveau de la NOAA, N-O-A-A, la National Oceanographic and Atmospheric Administration, avoir ces graphiques. Vous voyez qu'en permanence, vous avez deux satellites GOES dans deux bandes de fréquences différentes de rayons X, et là, vous avez l'activité des rayons X solaires, qui est cotée sur cette échelle en A, B, C. Bon, AB, c'est courant, C, c'est des petites éruptions solaires. M et X, ça commence à être des éruptions solaires qui font des effets non négligeables. Donc, est-ce qu'on va réussir à avoir les mêmes informations ? Alors, autre instrument qu'on peut utiliser, la NASA, toujours, il suffit de s'abonner sur Internet, ça ne coûte rien, met à disposition trois types de rapports très intéressants sur le Soleil. Le premier, c'est le SRS, qui nous donne les numéros de chaque tâche solaire en activité, avec les coordonnées précises sur le Soleil, comme ça, si vous imagez le Soleil dans le visible, vous savez exactement de quelle tâche il s'agit, et donne des tas de choses intéressantes sur les émissions de la tâche solaire en question. Donc, vous vous regardez dans votre instrument optique le Soleil, vous voyez des tâches, vous regardez le numéro de la tâche tel qu'il a été attribué, et vous savez quel type d'émission le Soleil émet à ce moment-là. Alors, je sais, c'est un peu imbuvable, hein, faut savoir lire. Deuxième rapport, il y en a trois, hein. Deuxième rapport que vous pouvez obtenir, c'est l'activité solaire détaillée, avec, pour les numéros de tâches dont je vous ai parlé juste avant, que vous trouvez ici, le début, le moment du pic maximum, et la fin de l'événement d'émission, et la classe qui correspond à l'échelle que vous aviez tout à l'heure. Je vous rassure, il ne faut pas connaître ça par cœur, hein. Et puis, troisième rapport, eh bien, une fois que les rayons X solaires et le reste arrivent sur la Terre, eh bien, la Terre réagit, entre guillemets, avec son champ magnétique et produit certains événements. Je vais passer rapidement dessus parce que le temps passe. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut utiliser des matériels pour écouter un petit peu l'action de ces ondes sur Terre. Donc, vous pouvez acheter directement à la NASA des récepteurs de ce type. Alors, ils sont en kit, hein, faut les monter soi-même, qui permettent d'écouter certains bruits. Bon, là, je ne vous les ferai pas écouter, parce qu'il faut vraiment être dans un milieu dégagé de toute activité électromagnétique pour entendre ces belles choses. Donc là, ce n'est même pas la peine. Bon, vous avez d'autres récepteurs ici en photo, ça se trouve facilement. Vous pouvez utiliser des magnétomètres terrestres pour voir l'activité, la relation avec la Terre, mais je vais passer rapidement aussi. Et vous pouvez vous équiper de matériel qui ressemble à ça. Donc ça, c'est du matériel que vous trouvez... Alors, du matériel qui est vendu par Lucky RAA. C'est une association de radio-astronomes anglais qui peut être vendu fini ou en kit, donc vous pouvez le monter vous-même. Alors il y a l'antenne évidemment, mais il y a également le récepteur qui va avec. Et puis vous branchez ça à un ordinateur. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Eh bien, on va mesurer l'activité solaire et obtenir un graphique de ce type-là. Donc, tout ce qui est en violet, c'est la nuit. Donc, vous voyez que la nuit, vous avez une espèce de signal qui est assez élevé, qui reflète donc l'activité de notre ionosphère. Quand le soleil se lève, il y a toujours un pic ici, puis un creux ici. Et puis une petite bosse après. Et puis tout le long de la journée, quand le soleil est là, vous allez avoir ceci. Jusqu'au soir, où le soleil se couche, de nouveau un creux, et la nuit, le soleil remonte. Ça, c'est une journée normale sans éruption solaire. Et ça, c'est exactement les courbes que je vais obtenir avec ça. Alors celle-là, ce n'est pas la mienne, mais je vais vous montrer la mienne après. Quand vous avez des éruptions solaires, vous obtenez la même chose, sauf qu'en plus, vous avez des pics qui apparaissent. Et la question, c'est de remettre ces pics par rapport aux données qui nous viennent des satellites. Alors ça, c'est mes données. Voilà ce qui se passe. Ici, c'est ce que j'ai mesuré. Alors, il y a déjà quelques années, j'ai repris le même, mais ce n'est pas grave. Vous avez la nuit qui est là-haut. Vous avez le jour qui se lève. Là, vous avez un creux parce que l'émetteur que j'utilise est un émetteur de l'OTAN qui sert au sous-marin nucléaire, dont j'ai rien à faire au niveau du message, mais qui fonctionne là et qui a une heure de pause tous les jours. C'est très intéressant parce que ça permet de mettre une ligne de base sur le signal. Et puis après, vous voyez, j'ai une journée normale et puis là, un pic. Et ce pic-là correspond en fait au pic ici, mesuré par les satellites. Donc avec ce matériel-là, chez moi, en permanence, je peux mesurer exactement ce que mesurent les satellites GOES autour de la Terre. Et je peux, avec les données que je vous ai montrées précédemment, savoir en temps réel quelle est la tâche sur le Soleil qui m'envoie les informations que je suis en train de voir. Alors si vous regardez le rapport dont je vous ai montré tout à l'heure, c'est celui-là. C'est-à-dire que ce jour-là, le signal a commencé à 10h29, maximum 11h01, fin 11h44. C'était la région 1302 du Soleil, qui était 13 degrés nord, 78 degrés est par rapport aux coordonnées solaires. Et c'était un événement de type X14, c'est donc dans la ligne X là-haut, le signal rouge, un signal de type X14. Alors ce ne sont pas des images, ce sont des données. Mais moi je trouve toujours ça très excitant d'avoir en direct finalement des informations aussi importantes que ça sur l'activité de notre Soleil. Voilà, je vais m'arrêter ici parce que j'ai pas plus de temps. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Et si vous voulez regarder un petit peu, j'ai imprimé quelques documents. Si vous êtes intéressé un petit peu par la radioastronomie, n'hésitez pas à venir voir ça après.
Merci beaucoup. Alors, ces documents, ils sont libres parce que si ça peut exister en PDF, on peut peut-être le relayer après.
Le rapport, là, il se trouve sur Internet. Il suffit de taper Surface sur Jupiter. C'est un rapport qui fait 18 pages. C'est un rapport préliminaire. C'est des expérimentations qui ont été faites avec certains détails, certaines photos. Il y a un deuxième rapport qui existe, mais qui n'est pas sur Internet. Mais ça se trouve facilement. Ou on peut le mettre en PDF sur le site. Il n'y a pas de problème.
Parce que là, en réfléchissant, je pense qu'on essaiera de faire une petite page sur notre site. Un petit résumé de ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui est enregistré, sauf la séance au planétarium. Et donc, mettre aussi les liens, donc des structures, les liens des documents, et puis d'autres choses que vous voudriez faire paraître qui concernent la journée. Et on pourrait faire comme ça une page donc dans les... entre aujourd'hui et dans 15 jours.
Voilà. Autre document que j'avais préparé, alors ça c'est le site d'une personne privée, mais à l'intérieur vous avez, en ce qui concerne la détection des météores, une analyse très très fine de ce que vous entendez, en fonction de à quoi ressemble votre signal. Donc là il suffit d'utiliser un petit logiciel gratuit, et vous avez vraiment une description très très détaillée. Alors ça monte très haut, mais si jamais vous avez envie de voir un petit peu ce que c'est, ça donne des informations très importantes sur ce qui se passe réellement au-dessus de nos têtes. Et puis vous avez d'autres rapports, ça c'est un rapport quelconque. D'accord. Il y en a des quantités, n'hésitez pas à les regarder sur Internet. La radioastronomie au niveau amateur, ça peut se faire, même avec des clés pour se voir la télé sur votre ordinateur qui coûte une vingtaine d'euros. Si vous mettez la bonne antenne au bout, vous pouvez faire de la radioastronomie. Donc si vous récupérez une antenne gratuite que vous dépensez 20 euros, vous pouvez essayer la radioastronomie.
Parfait. Y a-t-il des compléments à demander ? Voilà, mais bravo encore.